Alors, bonjour, frères et sœurs. Donc, nous sommes dans l'étude de l'Épître aux Romains et nous arrivons à la dernière section, ou presque la dernière section, des chapitres 9 à 11. Donc, on a commencé l'étude la semaine passée du chapitre 11. Il est question du problème du peuple d'Israël. Donc, c'était évident à l'époque de Paul et c'est encore évident aujourd'hui que la majorité des Juifs ne croient pas que Jésus est le Messie. Et certains l'attendent encore. Et la majorité de ceux qui forment le peuple de Dieu aujourd'hui ont été sauvés à travers d'autres nations. Et il y en a plusieurs qui sont rassemblés ici ce matin. Mais c'est une chose frappante qu'il y a si peu d'Israélites descendants de sang d'Abraham qui croient. Donc, c'est un problème que Paul devait adresser. Parce qu'on va voir, entre autres, dans notre passage de ce matin, qu'on peut se tromper à leur sujet et s'enfler d'orgueil en pensant qu'on est supérieur ou plus sage. Ce qu'on a vu la semaine passée, Paul répond à la question « Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? » En d'autres termes, est-ce que Dieu a entièrement rejeté Israël, le peuple juif, le peuple de l'Ancien Testament? La question est pertinente. Et Paul y a répondu dans les 10 premiers versets qu'on a vus la semaine passée, premièrement, en disant que non, il n'a pas complètement rejeté son peuple. La preuve, c'est qu'il est lui-même juif, et pourtant il est sauvé. Donc Dieu a sauvé parmi le peuple juif, même si en très grande majorité, ils ont rejeté le Messie, même si après qu'il soit ressuscité, qu'il y a eu une foule de témoins, ils n'ont pas voulu croire, en grande majorité, quand même des Juifs ont cru. Et même au cœur même de l'Église, la première Église locale à Jérusalem était formée de Juifs. Donc Dieu a sauvé, et il s'est gardé un reste, et encore aujourd'hui, il se garde un reste dans la nation juive qu'il n'a pas complètement rejeté. Donc, est-ce que Dieu a rejeté Israël? Pas entièrement. Mais Paul continue d'y répondre dans la section qu'on va voir aujourd'hui, dans Romains 11, à partir du verset 11. Donc, ici, Paul y répond, mais sous l'angle du temps. Donc, non seulement Dieu n'a pas complètement rejeté son peuple, mais il ne l'a pas rejeté indéfiniment non plus. Donc, ce n'est pas pour toujours. Lisons ensemble Romains 11, à partir du verset 11. Donc, la lettre aux Romains, chapitre 11, verset 11. C'est pas mal la dernière section qui est plus théologique, si on peut dire, avant d'entrer dans une section plus pratique à partir du chapitre 12. Donc, lisons du verset 11 jusqu'au verset 32. « Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes, non. Mais par leur chute, le salut a été donné aux païens, afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il de leur complet relèvement? » Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, mais des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour greffer de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, greffés sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois obéi à Dieu et désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, mais de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde. eux aussi maintenant par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. On va voir les quelques versets qui restent là avec Greg Brown la semaine prochaine. Donc, ce que je comprends de ce passage-là, en résumé, parce que c'est un passage qui est hautement débattu, je crois que la mise à l'écart d'Israël n'est pas définitive. Bon, pour dire ça, c'est sûr que j'affiche mes couleurs ici, mais parce que c'est un des passages qui est un des passages qui est le plus débattu dans le monde chrétien, et depuis longtemps. Et il y a plusieurs camps, il y a plusieurs positions, qui sont toutes pour la plupart bibliques, là, qui vont utiliser ce passage-là, entre autres, à l'étudier dans leur modèle théologique, et c'est correct. Mais ici, je vous affiche tout de suite mes couleurs. Je crois qu'il s'agit d'un retour éventuel de la nation d'Israël, même si j'ai une compréhension, en général, amillénariste. Ici, je ne partage pas la compréhension classique, si je peux dire, amillénariste de ce passage-là, qui, du point de vue de classique amillénariste, on voit aucun avenir pour Israël national. Donc, lorsqu'il est question ici du salut d'Israël, on va comprendre que c'est le salut de l'Église qui est appelé le nouvel Israël, si on peut dire, donc de l'ensemble des chrétiens d'origine juive et d'origine païenne. Et que de cette manière-là, il va toujours y avoir un reste d'Israélites sauvés et beaucoup de païens, et c'est de cette façon-là que Dieu va sauver tout Israël qui est l'Église. Ça, c'est la façon millénariste classique de comprendre. C'est pas comme ça que je le vois. Il y a aussi la façon dispensationaliste de le voir, qu'il s'agit vraiment du peuple d'Israël qui sera sauvé, mais dans la manière classique dispensationaliste, c'est un salut qui est différent de celui de l'Église. On voit vraiment deux entités séparées, et que lorsque Israël sera enfin sauvé, ce sera pour rétablir la gloire terrestre, politique du royaume d'Israël qu'ils avaient d'antan à l'époque de Salomon, par exemple, et qu'ils seront sauvés dans un sens d'une manière différente de l'Église, et que finalement, Dieu a une destinée différente pour les deux peuples. Dieu aurait deux peuples. Donc, ce n'est pas de cette façon-là non plus que je le vois. Moi, je crois qu'il s'agit de la nation d'Israël, mais qui sera un jour convertie à Jésus et regreffée à l'Église, finalement. Mais bon, vous avez sûrement peut-être une position quant à ce passage-là, mais je vous invite ce matin à le relire et à revoir ce que le texte lui-même dit. C'est sûr, dans le contexte de Romains et dans le contexte du Nouveau Testament, là, mais en faisant un effort de ne pas introduire des pensées externes, mais juste de regarder ce que le texte lui-même dit. Et on peut voir trois choses dans ce texte-là. Je vous propose qu'il y ait question, dans les versets 11 à 32, comme on vient de le voir, de la mise à l'écart d'Israël, qui est vue, qui est montrée par Paul comme étant une étape. C'est une étape prévue par Dieu dans le plan du salut de l'humanité. Donc, Dieu avait voulu qu'à un moment donné, Israël, la nation, soit mise à l'écart. Donc, c'est une étape dans son plan. La mise à l'écart d'Israël est aussi un avertissement pour les chrétiens, pour tous les chrétiens. Et c'est aussi, la mise à l'écart d'Israël, une étape qui précède une autre étape qui va venir, qui est leur salut, finalement, le salut d'Israël. Donc, Dieu a un plan pour sauver l'humanité. Pourquoi sauver? Bien, vous le savez, on l'a chanté ce matin, si vous avez cru en Jésus, vous savez de quoi on a besoin d'être sauvés. Nous avons tous, un jour ou l'autre, désobéi, comme il est mentionné dans les derniers versets du passage. Nous avons un jour désobéi à la volonté de Dieu. Et nous avons été considérés par Dieu comme des criminels à sa loi, des pécheurs, qui méritent une juste condamnation de sa part. Et la juste condamnation, c'est l'enfer pour l'éternité. C'est la mort éternelle. Donc Dieu, qui n'est pas seulement juste, mais qui est aussi amour, a voulu nous sauver. Et il a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Et ce plan de salut est établi par étapes. Et la chute d'Israël est une de ces étapes. Une étape importante, une étape dans le plan du salut de Dieu. Il est dit qu'ils ont trébuché ou ils ont bronché, ça dépend de la version que vous avez. Donc, ils se sont enfargés, on dirait en québécois. Il y a une pierre qui a été mise, et on sait que cette pierre, c'est Jésus. Mais au lieu d'en faire le fondement pour leur maison, ils se sont heurtés à cette pierre-là. Ils ont trébuché, ils ont tombé. Mais cette pierre est devenue la principale de l'angle, finalement. Mais la question que Paul demande, c'est est-ce que de trébucher, le but, c'était justement qu'ils chutent, qu'ils tombent d'une manière définitive? On voit ici que la chute d'Israël avait deux objectifs. Bien, sûrement plusieurs autres aussi, mais Paul ici présente les deux objectifs principaux de Dieu. Pourquoi il a permis cela? Pourquoi il a voulu la chute d'Israël? Premièrement, pour donner le salut aux païens. Et Paul dit qu'il a d'ailleurs été un apôtre qui a prêché d'abord aux Juifs partout où il allait, mais son rôle s'est principalement exercé, sa tâche s'est principalement exercée auprès des païens. Il a été appelé l'apôtre des païens. Et c'était clairement l'appel que Jésus avait pour lui, d'aller annoncer l'Évangile dans toutes les nations. Mais ça, si ça a été possible, et si les païens ont cru, se sont convertis au Dieu d'Abraham, c'était parce que les Juifs avaient rejeté le Messie. Et Dieu s'est tourné vers les païens. Donc ce salut-là, cette vie éternelle en Jésus, ça constitue, comme Paul le dit, la véritable richesse du monde. C'est devenu le trésor le plus précieux qu'on peut obtenir, la perle de grand prix. C'est un trésor inestimable. C'est la richesse des païens, ce salut-là. Il n'y a pas de plus beau trésor, le seul trésor qui dure éternellement. Et j'espère que vous le possédez, ce trésor. Ce salut-là est aussi présenté comme étant la réconciliation du monde. Donc Dieu voulait faire du bien avec le grand mal qui a été fait en Israël lorsqu'ils ont crucifié le Messie. Dieu s'est servi de cela pour donner le salut à toutes les nations et que le monde, finalement, soit réconcilié avec lui. Quand Jésus parlait de pourquoi il a été envoyé sur terre, il n'a pas juste dit « Dieu a tant aimé Israël ». Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, c'était la raison principale pourquoi Israël a chuté ici, pour que les païens puissent avoir accès au salut. C'était aussi, en même temps, pour provoquer leur jalousie, pour les réveiller, là, pour leur dire « Waouh, vous avez négligé là, ce grand trésor que vous aviez entre les mains ». Et là, c'est d'autres nations qui en profitent. Paul en a déjà parlé, ça, au chapitre 10 et au chapitre 11. Donc, Paul savait que son ministère auprès des païens attisait la jalousie des Juifs. Bon, leur réaction face à cette jalousie-là était principalement mauvaise. Ils sont devenus des ennemis des chrétiens. Ils ont persécuté Paul. Ils ont fait en sorte qu'il soit emprisonné. Ils l'ont même lapidé. Ils pensaient même qu'il était mort. Et partout où Paul allait, il a attiré la haine des Juifs sur lui. Et les Juifs ne sont pas arrêtés là, mais ils se sont donnés comme mandat d'aller contre les chrétiens. Ils sont devenus les ennemis à cause de cette jalousie-là. Mais cette jalousie-là a aussi permis de sauver des Juifs. Ils ont réalisé finalement que le salut était accessible par la foi en Jésus. Et Paul espérait que par son ministère, alors qu'il sauvait auprès des païens, il servait auprès des païens, il espérait que ce ministère-là fasse en sorte d'attiser, de provoquer la jalousie des Juifs et de pouvoir en sauver quelques-uns. C'était son espoir, son espérance. Il dit ça au verset 14, « Afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race, pour qui ils pleurent, même, on a vu au chapitre 9, et d'en sauver quelques-uns. » Et je pense aussi que dans les versets 11 à 15, il dit « Ont-ils trébuché afin de tomber? » Il est aussi question du fait que cette situation-là, où la majorité des Juifs rejettent le Messie, il y en a seulement quelques-uns qui sont sauvés, n'est pas définitive. Même si ça fait 2000 ans qu'elle dure, ce n'est pas une situation permanente. La chute d'Israël n'est pas permanente, si on peut dire. Il y a beaucoup de royaumes sur la terre qui ont connu des chutes et c'était final. L'Empire babylonien n'existe plus. L'Empire romain n'existe plus. Beaucoup de grands empires n'existent plus. On ne sait pas ce qui va arriver un jour avec l'Empire américain. Mais éventuellement, tous les empires sur la terre finissent par tomber, mais... Je pense qu'ici, Dieu préserve, si on peut dire, le royaume d'Israël de sorte qu'il ne soit pas éradiqué. Il assure sa survie. Donc, ils n'ont pas tombé afin que ce soit leur chute finale. En fait, verset 12, même, il dit que ça sera suivi d'un complet relèvement. Là, ici, c'est traduit de plusieurs manières. Dans Louis II, 1910, c'est traduit « lorsqu'ils se convertiront tous ». En tout cas, dans autant de versions françaises qui existent, je pense qu'il y a deux façons de traduire. Parce que c'est une petite expression, c'est littéralement, en grec, c'est leur plérôme, leur plénitude, lorsque leur nombre sera complet. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? On peut interpréter que c'est le jour où tous les Juifs qui ont à être élus dans le reste que Dieu préserve arriveront à leur nombre complet. Mais je ne pense pas que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le contraste est mis justement avec le fait qu'il y a seulement un reste pour un temps. Donc, si d'avoir seulement un reste de Juifs a causé le salut des païens, bien, il va y avoir une situation différente qui est que ça ne sera plus seulement un reste. Ça va être un grand nombre, si on peut dire. La nation juive qui va se convertir et qui va avoir un effet encore plus grand. Paul parle d'ailleurs au verset 15 de leur réintégration. Que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Donc, oui, il y a un reste présentement, mais on peut dire que la majorité des Juifs ont été retranchés, mis à l'écart. la prochaine étape qui va venir, on ne sait pas quand, mais j'espère bientôt, ça va être leur réintégration. Le fait qu'ils ne seront plus à l'écart. Et cette prochaine étape est glorieuse. Donc, si le résultat de leur mise à l'écart a servi dans le plan de Dieu du salut à la réconciliation du monde, wow! Mais la prochaine étape va être encore plus grande. Parce qu'on voit que tout le plan du salut de Dieu passe par Abraham et sa descendance, tourne autour de la nation d'Israël. Il demeure au cœur du plan du salut de Dieu. Et qu'est-ce qui va se produire? Par leur réintégration, une vie d'entre les morts. Ça, encore, c'est une phrase qui est débattue parce que ça peut être interprété de différentes manières. Qu'est-ce que c'est que la vie d'entre les morts? On aimerait ici avoir plus de détails. Hein? Mais c'est intéressant de faire une recherche sur l'expression « entre les morts » ou « d'entre les morts », ce qui est sorti d'entre les morts. C'est utilisé à beaucoup de reprises dans le Nouveau Testament. J'ai relevé 46 fois où c'est utilisé. Et presque toujours, c'est pour parler de la résurrection. C'est pour parler d'un état de ce qui était mort, mais littéralement mort et revenir. Donc, quand Jésus est ressuscité, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Donc, peut-être qu'ici, Paul parle au sens figuré aussi, d'une vie abondante. Mais je pense qu'il laisse présager, c'est comme une allusion à une étape de la fin des temps qui consiste à la résurrection des morts. Donc, littéralement, une vie d'entre les morts. On sait que lorsque Christ reviendra, les morts en Christ vont ressusciter. Ceux que l'on pleure, qui nous ont quittés, mais qu'on sait qu'ils sont des enfants de Dieu, on va les retrouver. Et si on est encore vivant, lorsque Jésus va arriver, nous aussi, on aura un nouveau corps plein de vie, la vie éternelle et glorifiée pour l'éternité. Mais on va revenir à ce point-là un peu plus tard. Donc, ce qui est clair dans les versets 11 à 15, selon moi, c'est que cette mise à l'écart du peuple juif est une étape dans le plan de Dieu, une étape importante, mais pas la dernière, elle est voulue par Dieu. C'est aussi un grave avertissement, un important avertissement pour les chrétiens. Donc, Paul ici, il n'est pas seulement en train de nous révéler des choses de l'avenir pour satisfaire notre curiosité. De toute façon, on doit avouer qu'on est plus ou moins satisfait, on aimerait avoir plus de détails. Mais son intention, c'est de nous exhorter face à notre attitude. Et bien sûr qu'il nous exhorte à l'humilité. Donc, premièrement, en mettant Israël de côté, Dieu n'a pas jeté l'Ancien Testament à l'eau. Ce serait une erreur en tant que chrétien de dire, nous, on ne va pas étudier les textes adressés aux Juifs. Il y a certains théologiens qui ont voulu faire l'exercice de faire ça, de rejeter tout ce qui faisait allusion au peuple d'Israël, même dans le Nouveau Testament, d'enlever toutes les allusions au peuple d'Israël pour avoir seulement une Bible des chrétiens, si on peut dire. Mais on enlève tout l'essentiel de la Bible, on dénature la parole de Dieu. C'est pas à ça qu'on est appelé. On est appelé à honorer l'Ancien Testament. Avec humilité. Quand Dieu sauve un païen, comme vous et moi, en fait, il fait de lui un enfant de Dieu, mais un enfant d'Abraham. Un enfant de quelqu'un qui n'est pas notre ancêtre de sang. Mais on est appelé à humblement accepter ce fait-là, qu'on devient héritier d'Abraham, qui n'est pas de notre race à vous et moi, à qui Dieu a fait des promesses. Et on devient héritier du royaume des cieux qui a été promis à Abraham. Et cette promesse-là a été développée ensuite par les prophètes. Mais cette promesse-là du royaume des cieux, puis on sait qu'on a une place dans les cieux, ça a d'abord été promis à Abraham. Et c'est parce qu'on a la même foi qu'Abraham, finalement, qu'on devient héritier de cette promesse-là. Paul l'a d'ailleurs mentionné au chapitre 4, dans Romains, pour démontrer qu'on est sauvé par la foi et non par la loi. Il faisait le débat. Dans Romains 4, 16 à 18, il dit, ce n'est pas par la foi. Non, pardon. C'est par la foi. Il faut faire attention, hein? C'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut, en parlant d'Abraham, il crut, et il devint ainsi père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Donc, vous et moi, si nous croyons, nous appartenons à la descendance d'Abraham, nous avons la même foi que lui, et nous sommes sauvés de la même manière que lui. Si on reprend les images que Paul donne, les illustrations au verset 16, si nous sommes comme une pâte et nous pouvons, sans orgueil, dire que nous sommes saints, Dieu a fait de nous une pâte sainte, c'est parce que les prémices étaient d'abord saintes. Si nous pouvons être saints pour Dieu, c'est parce que les patriarches juifs ont été mis à part, ont été sanctifiés par Dieu. Et nous sommes associés à eux. Si, comme les branches d'olivier sauvage qui ont été greffées sur un olivier franc, un olivier cultivé, qui est le peuple de Dieu, donc si nous sommes comme des branches sauvages qui ont été greffées et qui sont abreuvées par les mêmes racines, bien encore une fois, nous pouvons être saints pour Dieu parce que les racines sont saintes. Donc, nous pouvons être saints pour Dieu parce que les patriarches juifs le sont. Donc, ça devrait nous rendre humbles face à Israël, à leur père. Ce sont les racines qui nous portent et non l'inverse. Donc, n'ayons pas des pensées orgueilleuses ou méprisantes à l'égard des Juifs. C'est malheureusement souvent arrivé dans l'histoire de l'Église pendant 2000 ans. Et les Juifs ont été persécutés parfois par des chrétiens. Donc, n'ayons pas des pensées orgueilleuses comme celle-là. Espérons même en leur salut. Combien la conversion d'un Juif est précieuse. Ça fait penser à l'histoire du fils prodigue qui revient enfin. Puis le père est heureux, il était comme mort, puis maintenant il est revenu à la vie. On devrait se réjouir et ne pas faire comme l'autre frère qui était frustré. Mais nous réjouir qu'un Juif se reconvertisse, revienne à son Dieu, à la foi. Soyons humbles aussi à l'égard de tous ceux dans nos entourages qui ne croient pas en Jésus ou qui ont rejeté la foi. C'est sûr qu'on ne peut pas approuver leur vie, on ne peut pas approuver leurs mauvaises décisions, leur manque de persévérance, leur manque de foi. Mais faisons attention de ne pas les condamner, eux, de les juger comme si nous étions supérieurs. C'est sûr que c'est une bonne décision que de suivre Jésus, mais ce n'est pas à cause de notre sagesse que nous persévérons. Ce n'est qu'une grâce de Dieu si nous persévérons jusqu'à la fin. C'est le travail du Saint-Esprit en nous qui nous rend persévérants. C'est Jésus qui ne veut pas que personne ne nous enlève de sa main, qui nous garde jusqu'à la fin. Soyons reconnaissants. Et même, ne voyons personne autour de nous comme étant dans l'impossibilité d'être sauvé, comme condamné. Donc, c'est un avertissement d'être humble. Un deuxième avertissement pour les chrétiens se trouve dans le fait même qu'Israël a chuté et a été mis à l'écart. En voyant la sévérité de Dieu à l'égard de son peuple, et on le voit non seulement dans le Nouveau Testament, mais on le voit dans l'Ancien Testament quand on lit. Comment Dieu a traité Israël lorsqu'ils étaient infidèles, idolâtres. Dieu est sévère, même s'il est plein de grâce. Et il est arrivé un jour où sa patience est arrivée à son terme et il a mis la nation d'Israël à l'écart. Ce qui leur est arrivé doit nous servir d'avertissement. Ils ont été mis à l'écart parce qu'ils n'ont pas cru en son Fils, le bien-aimé de Dieu. Et pourtant, le Père l'a déclaré, même devant les témoins, là, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. J'ai mis en lui toute mon affection. » Et ils l'ont rejeté. C'est pour Dieu une désobéissance. Ils ont désobéi au plan du salut que Dieu a mis en place pour qu'ils soient pardonnés. Mais si nous aussi, si nous manquons de foi, si nous faisons semblant de croire en Jésus, nous sommes seulement des chrétiens de nom, nous sommes insouciants de son Évangile, négligents, bien nous aussi, nous serons retranchés. C'est possible que Dieu sauve beaucoup de gens dans une communauté, dans un village, dans une ville, une région, même une nation. Mais il ne faudrait pas croire que tout à coup, le simple fait d'appartenir à cette communauté-là ou à cette nation-là nous sauve. Le salut est toujours basé sur une foi individuelle en Dieu. Et il y a plusieurs communautés, plusieurs nations qui ont commis cette erreur-là. Ou des organismes, des organisations religieuses aussi, qui ont pensé être le nouveau peuple de Dieu. Et qui croyaient que de simplement faire partie de cette organisation-là sauve. Mais c'est une grave erreur. Et Dieu le montre clairement que si on n'a pas foi en son Fils, on est retranché, on est mis à l'écart. Un avertissement sévère. Et Paul le rappelle au verset 32. Comment est-ce que c'est possible d'être sauvé, puisque finalement nous avons tous désobéi? Verset 32. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est par la grâce que toute personne peut être sauvée, uniquement en invoquant le Seigneur pour obtenir le pardon. Croyez en Jésus pour être sauvé. Finalement, nous devons être humbles à l'égard des Juifs aussi parce que leur situation n'est pas finale. Si Dieu a pu prendre nous des branches d'olivier sauvage et les greffer sur l'olivier franc, il peut très bien prendre des branches qu'il avait retranchées pour les regreffer. C'est même plus naturel que ce soit des branches de l'olivier franc qui soient branchées que nous, des branches sauvages. Donc, ne pensons pas, comme ça a souvent été l'erreur, que Dieu ne peut pas sauver des Juifs aujourd'hui, qui sont endurcis au point que c'est impossible pour eux d'être sauvés. Dieu peut très bien le faire, et c'est même plus naturel qu'eux soient sauvés que nous, si on peut dire. Ça nous conduit au troisième et dernier point, et je crois concerne la réintégration d'Israël, que ce n'est pas seulement une possibilité, c'est prévu dans le plan de Dieu. Donc, Paul dit au verset 25, on va relire à partir du verset 25. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde eux aussi, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, Paul dit ici que c'est un mystère qu'il nous révèle, que la mise à l'écart d'Israël sera suivie de son salut. Je sais, ce n'est pas la seule interprétation, mais c'est comme ça que je le comprends. La mise à l'écart d'Israël est pour un temps, mais elle sera suivie de leur salut. Et c'est quoi la durée de ce temps-là? Bon, la durée n'est pas précisée, mais on sait que c'est jusqu'à ce que le nombre total des élus parmi les nations soit sauvé. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, c'est donc sous-entendu que lorsque la totalité des païens va être sauvée, tous les élus, Dieu a prévu qu'ils allaient se convertir, mais Israël ne sera plus endurci. C'est ce que je comprends qui est sous-entendu. C'est semblable aux paroles de Jésus lorsqu'il prêche dans Luc 21, versets 23-24. Il dit « Il y aura une grande détresse dans le pays, de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds des nations. » Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça ressemble quand même. On est dans le temps où ce que Dieu sauve les nations à cause de l'endurcissement d'Israël. Mais ce temps-là a une fin marquée, on ne sait pas c'est quand. Et si Paul appelle ça un mystère, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est totalement caché. C'est un mystère qui est révélé. Par contre, je pense qu'il n'est pas révélé à 100%, si on peut dire. Je pense que Paul a reçu une révélation de Jésus-Christ que, par le Saint-Esprit en tant qu'apôtre, et il nous révèle, mais il ne nous dit pas tout. Et de toute façon, même Paul ne sait pas tout. Donc, Dieu ne nous dit pas tout ce qui va arriver. De toute façon, on ne pourrait pas le saisir. Comme on va voir dans les derniers versets la semaine prochaine, verset 33, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Si Dieu voulait vraiment nous révéler tout ce qui va se passer, là, il n'y aurait pas assez de livres sur la terre pour contenir tout ça, puis on ne pourrait même pas rien comprendre de toute façon. Ça dépasse notre entendement. Mais une chose est sûre, il y a certains éléments que Paul révèle, et je crois que quand il parle de mystère, il est en train de parler d'une étape future qui s'en vient. Donc, il va coïncider avec la fin des temps, le retour de Jésus. Il a utilisé cette expression-là, mystère, aussi dans 1 Corinthiens 15, pour parler des événements de la fin des temps. Dans 1 Corinthiens 15, 51-52, il dit, « Je vous dis un mystère. » Non, je vous le révèle. « Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons changés. » Donc, c'est quelque chose qu'on peut, une fois que ça nous est révélé, on peut aller relire les textes de l'Ancien Testament, puis là, tout d'un coup, on le voit. Ah, c'est vrai, ça fait du sens. Mais ça demeurait mystérieux tant que ça ne nous était pas révélé. Et ici, Paul nous dit que finalement, Jésus va revenir, alors qu'il y en a peut-être parmi nous qui vont être encore vivants. On va voir arriver. On va le voir arriver et on va ressusciter. Et ceux qui sont encore vivants vont avoir un corps transformé. Mais il nous dit dans Romains 11, une autre chose aussi, c'est qu'une fois que le compte sera arrivé au compte complet pour tous les païens d'être sauvés, au temps de la patience de Dieu, comme dit Pierre, Israël ne sera plus endurci et va se convertir. Je pense que lorsqu'il parle même du salut de tout Israël, il parle d'une conversion massive de la nation d'Israël. Bon, c'est sûr que ce n'est pas à 100% de chaque individu israélite. Comme dans l'Ancien Testament, lorsqu'il disait que tout Israël était de tout cœur, bon, c'était à part ceux qui avaient abandonné le Seigneur, là. Donc, ça demeure toujours quand même sur la base d'une foi sincère, individuelle en Jésus. Mais je crois qu'il va y avoir une conversion massive des Juifs, au point où est-ce qu'on va dire la nation juive s'est convertie. Et là, c'est pas dit, mais ça va forcément attirer la haine, une haine encore exponentiellement plus élevée que la haine actuelle contre les chrétiens. Ça va conduire à la persécution mondiale. Mais je crois qu'il va y avoir une conversion claire et Dieu va honorer l'élection d'Abraham qui a choisi son serviteur pour que sa descendance soit sauvée. Qu'il sauve l'humanité finalement dans le fait que tous ceux qui deviennent amis d'Abraham sont bénis en lui. Ceux qui lui sont associés, ses descendants, toutes les nations qui ont la même foi qu'Abraham sont sauvés. Et Paul va jusqu'à dire que Dieu ne peut pas en faire autrement parce que les dons gratuits et son appel sont irrévocables. Il ne va pas changer d'idée. Bien sûr, la manière dont ça s'applique, ça s'accomplit, ça nous dépasse et ça nous surprend. Mais il tient promesse et Dieu est fidèle. Donc Dieu, je crois, il va toucher le cœur des Juifs pour qu'ils aient une foi comme leur père Abraham, qu'ils croient dans le Messie. Maintenant, il y a une chose importante qui est à noter aussi qu'on peut tirer comme déduction de ce passage-là, concernant le salut d'Israël, ils seront sauvés de la même manière que nous, par la foi dans le libérateur qui vient de Sion. C'est qui, ça, le libérateur venu de Sion? C'est Jésus-Christ. Et ils vont croire en Jésus. Ils vont finalement comprendre que le Messie qu'ils attendent, c'est Jésus. Et ils seront sauvés de la même manière que les chrétiens actuellement sont sauvés, autant juifs que païens. C'est par la foi en Jésus. Et qu'est-ce que c'est que le salut? Comme on vient de le chanter tantôt, c'est que nos péchés sont ôtés, nos péchés sont pardonnés. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, le salut qui est promis au peuple juif, c'est ni plus ni moins que ce que nous connaissons nous aussi, là. C'est la vie éternelle d'être lavé de leurs péchés. Ils ne seront plus ennemis de l'Évangile. ils croiront à l'Évangile. Ils obéiront à l'Évangile et ils obtiendront la même miséricorde qui nous a été faite. Ils ont, à cause de leur rejet du Messie, ils sont tombés dans un état de même désobéissance que toutes les nations, mais pour connaître une même miséricorde de la part de Dieu, être sauvés de la même manière. Dans Romains 10, Paul l'avait déjà dit, dans Romains 10, versets 9 à 13, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. » En confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence, en effet, entre le Juif et le Grec. Ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ils seront sauvés en invoquant le nom de Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Donc, je ne crois pas qu'ils vont former un peuple distinct des chrétiens. D'ailleurs, si on revient à l'illustration de l'olivier, Dieu ne va pas faire germer un nouvel olivier. Il va les regreffer au même olivier d'où ils avaient été retranchés, avec vous et moi, pour former un seul olivier, le peuple de Dieu, appelé dans le Nouveau Testament l'Assemblée, l'Église, formée des Juifs croyants et des non-Juifs. Croyant, le peuple de la Nouvelle Alliance. Donc, il y a des choses qu'on peut être sûr dans l'enseignement de Paul, même s'il faut faire attention de ne pas être trop catégorique dans nos positions. On doit respecter le fait que parmi nous, plusieurs ont différentes positions. Et c'est possible que vous rencontrez des chrétiens qui sont vraiment convaincus de leur position, ils l'appuient bibliquement, et on honore cela. Mais il y a des choses qu'on sait quand même. Et le salut est par la foi en Jésus. Mais il faut faire attention de ne pas tirer beaucoup plus de ce qui est dit ici. Ce n'est pas dit lorsque Israël sera sauvé, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Selon les modèles théologiques que vous et moi on a, peut-être on peut croire qu'il y aura une période de 1000 ans de prospérité et de paix sur la terre. On peut croire aussi que Jésus va revenir et ça va être pour instaurer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Que ce sera l'ère de l'éternité. Les deux sont possibles, mais on ne peut pas tirer de conclusion à ce niveau-là, je pense, dans Romains 11. Je crois que ce passage-là nous ramène à ce qu'on a dit, à avoir une attitude humble face à la sagesse de Dieu, dans sa souveraineté, dans son plan, qui dépasse même notre compréhension à bien des égards, qui dépasse ce que l'on souhaite ou ce que l'on voudrait, ce qu'on pense qui est juste ou ce qui est injuste. C'est Dieu qui décide de ce qui est juste et c'est Dieu qui décide qui il va sauver. Nous ayons une attitude humble face à la souveraineté de Dieu. Soyons conscients, acceptons ce que Dieu nous dit, que la mise à l'écart d'Israël, c'est ce qui a fait en sorte que Dieu a pu nous sauver. Donc, n'ayons pas un regard méprisant envers les Juifs. Même, soyons plutôt contents ou considérons que nous sommes hautement privilégiés de pouvoir avoir part à ses promesses. Espérons même l'événement où un jour ils croiront et se convertiront. Je crois que lorsqu'ils se convertiront, ça amènera le retour de Jésus. C'est ma position, ça va amener le retour de Jésus, la résurrection des morts, l'établissement des nouveaux cieux, la nouvelle terre. Donc, j'ai hâte de voir cela et je prie pour ça. Et par rapport à Israël aussi, conservons une grande humilité. Nous sommes les bénéficiaires des promesses qui leur ont été faites. Et nous avons entre les mains l'Ancien Testament qui leur a été adressé. Oh, c'est tout un privilège qui nous est fait. Un honneur que nos pères, avant la venue de Jésus, n'avaient pas. Là. Ils devaient devenir juifs pour être bénéficiaires des promesses. Aujourd'hui, je reste un Canadien et je suis bénéficiaire des promesses faites à Abraham. C'est tout un plan merveilleux de la part de Dieu. Mais reconnaissons que ce sont les racines juive, là, qui nous porte, et non pas le contraire. Nous avons été greffés au reste juif croyant. Ne les méprisons pas en voyant leur chute, n'ayons aucune haine à leur égard, mais ayons une sainte crainte que nous pourrions tomber, nous. Et quand on lit dans Apocalypse les exhortations de Jésus adressées aux églises, wow! faisons attention individuellement, nos familles, notre Église aussi, de ne pas nous écarter de la vérité, pour ne pas être retranchés, que Jésus n'enlève son chandelier. Que nous ne soyons pas mis à l'écart. Donc, soyons remplis de crainte, mais en même temps d'assurance. Parce qu'il suffit de conserver la foi, de conserver les yeux fixés sur la promesse pour persévérer jusqu'à la fin. Et Dieu s'assure par son Saint-Esprit en nous de nous garder fidèles. Amen.
Amen.